C'est l'émission CPU et comme nous avions déjà parlé de synthèse vocale dans une précédente émission avec Stéphane Deschamps, où j'ai fait l'intro en synthèse vocale tout simplement parce que j'ai plus de voix, et que nous avons aussi parlé des impacts utilisateurs dans le Kill by App de Pia et Anthony avant l'été, nous allons aujourd'hui nous intéresser au développement d'extensions de ces assistants vocaux. Nous recevons donc Laurent Clouet, développeur, Development Team Manager chez Somfy Protect, collectionneur de BD, grand amateur du chat du rabbin, toujours pas poursuivi pour son site, pour infraction au copyright de Johan Sfar, va falloir que tu m'expliques.
CPU, carré, petit, utile.
Alors nous ne sommes pas seuls en plateau, il y a deux individus qui ne sont pas des humains, et que ben, je remercie énormément Somfy Protect et toi Laurent de nous les prêter
de rien.
Pour l'expérience, donc présente-les-nous.
Bonjour, donc on a amené deux assistants vocaux ici à présenter. Donc à la droite, on a la... faut imaginer un cylindre d'une trentaine de centimètres de hauteur qui est le produit d'Amazon, qui est le Amazon Echo avec à l'intérieur l'assistant qui s'appelle Alexa. Et voilà, elle m'entend.
Bonjour Alexa.
Et donc en effet, quand on dit Alexa... Something went wrong. Ouais, elle fait un peu la gueule en ce moment. Et en fait, quand on l'appelle, il y a un halo bleu qui s'illumine tout en haut et qui indique dans quelle direction elle entend le son. Et à sa gauche, son concurrent direct lancé par Google, qui est le Google Home, avec à l'intérieur le Google Assistant, qui lui répond au doux nom de OK Google. Et qui s'illumine aussi de ses quatre couleurs de chez Google pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire là. Ok.
Excusez-moi, je n'ai pas compris.
Et voilà, il n'a pas compris comme
voilà.
D'habitude.
Et donc, les règles du CSA nous obligent donc à citer quand même un troisième produit, bien évidemment, les grands suiveurs, c'est-à-dire Apple, qui ont un produit à peu près équivalent, ça on va en parler tout à l'heure.
Et Microsoft un petit peu. Enfin, pas de...
Enfin, non, maintenant c'est fusionné avec Alexa.
Bah, ils n'ont pas de, de speaker comme ça, mais ils ont toujours leur technologie Cortana qui existe. Bah, c'est le problème de Microsoft, ils essaient de lancer des technologies un peu en retard par rapport aux autres. Quoi.
Laurent, donc, tu étais, selon ton CV, nous t'as un petit peu trahi puisque tu étais développeur de sites d'e-commerce, donc du PHP, du jQuery, tout ça,
du MySQL.
Magento, pas trop pourri encore. Ça va. On pouvait citer pire. Et donc, tu es passé à l'IoT. Pourquoi ?
En fait, c'est un peu le hasard qui m'a porté vers le milieu de l'IoT. J'étais en milieu d'agence web et j'avais un peu envie de voir autre chose, de tester autre chose, de faire autre chose que des sites e-commerce. Et donc, quand j'ai cherché un job avec un profil PHP sur plusieurs années, je suis tombé sur une boîte dans l'IoT à la beige, comme la plupart des boîtes IoT de Toulouse qui sont toutes regroupées à la beige.
On se demande pourquoi.
Le fameux IoT Valley.
Ouais, à mon avis, c'est parce que c'est un peu bouchonné au sud. Donc ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire là ?
Comme ça, on ne peut pas sortir. Ils nous cloisonnent par les bouchons. Et donc, ils cherchaient un développeur PHP pour travailler sur des objets connectés, donc dans le domaine de la sécurité, et qui m'a totalement fait, enfin, il m'a fait beaucoup changer de domaine et surtout de produits sur lesquels travailler. Au lieu de maintenant de travailler sur des sites web, je travaille plutôt sur des interfaces cloud et des API au service de terminaux mobiles ou d'objets connectés qui sont nos centrales connectées et qui nous permet aussi de travailler avec les produits tels que Google Home ou l'Amazon Echo.
Ce qui est dedans, donc ça ressemble effectivement, ils sont tous plus ou moins cylindriques, donc Alexa fait pratiquement une trentaine de centimètres, a d'ailleurs un top qui est plat, alors que Google il est coupé en deux de biais, donc ça évite, ça évite qu'on pose ses clés dessus.
Et ils ont dû d'ailleurs le problème quand c'est sorti, quand le design est sorti, tout le monde s'est dit waouh, un super diffuseur de parfum. C'est pas très très original.
Par Johnson.
Mais au final, ça reste assez discret dans la maison. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu copié ces formes-là.
Matériellement, en fait, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est donc un petit ordinateur, des LED.
Alors, grosso modo, le plus gros du poids ou le plus gros de la contenance de ces appareils, c'est le système audio. Hein. Le poids de l'Amazon Echo qui pèse un petit peu, c'est son système de speaker qui est assez puissant et qui a un son assez agréable à entendre. Après, il y a la partie toute intelligence et réception du son qui est très importante. Pour information, par exemple, le Echo, il a 6 micros aux alentours, à la fois pour capter le son dans toutes les directions et aussi, une fois qu'il a capté le son, pour atténuer tous les sons parasites qui ne sont pas dans la direction vers lequel on l'a appelé.
Il fait de l'annulation en fait, d'écho et de bruit ambiant. Quoi.
Exactement.
C'est un peu ce que l'on retrouve sur la plupart des smartphones modernes, d'ailleurs.
Oui, c'est quelque chose qui est appliqué et qui est de plus en plus appliqué dans différents, dans les produits modernes et que dans les différentes enceintes connectées. Et le Google Home, c'est à peu près la même chose. Il est plus petit, donc il a aussi un son plus réduit, son système de haut-parleur un peu plus réduit. Si je me rappelle bien, il a moins de micros, je crois qu'il en a un ou deux, je ne sais plus. Et après, c'est toute l'intelligence qui le permet à la fois d'être connecté sur Internet, tous les deux en Wi-Fi, et de pouvoir écouter constamment le son pour détecter quand on les appelle, donc quand on dit Alexa ou OK Google.
Alors, avec ce très gros haut-parleur qu'on retrouve d'ailleurs étonnamment à la base tous les deux, donc c'est que franchement il doit être lourd, on pourrait croire que la musique est importante, et pourtant c'est du mono. Alors Phil Spector, il a dit back to mono, ou c'est parce que finalement on n'a pas les oreilles partout?
Alors, en effet, la musique reste quand même on va dire un peu le cheval de Troie de ces objets. C'est les statistiques qui sortent quand on voit les cas d'utilisation de ces objets, c'est dans les 60-70% d'utilisation, c'est pour diffuser du son. Donc que ça soit écouter ta musique sur Spotify, Google Music ou Amazon Prime, ou pour utiliser tes podcasts, ou pour écouter bien sûr Radio Éphémère tout le temps. C'est quand même à 60-70% l'utilisation de ces assistants vocaux. Après, pour le son, je sais que par exemple Apple essaye justement de damner le pion à ces deux assistants en disant que nous on va sortir le HomePod, quelque chose avec un vrai bon son. Et où, par exemple, vous pouvez aussi mettre deux HomePod qui vont jouer vraiment un son qui va remplir votre pièce. Ça reste, c'est pas un système hi-fi, ça reste un son agréable. Genre, si le matin, tu te lèves et tu demandes d'écouter ta radio juste en buvant ton café, c'est très, très agréable comme son. Et après, les autres usages principaux, ça va être... Alors, je crois que j'avais vu les stats rapidement, c'était... définir des alarmes, définir des timers, demander des conversions. Donc beaucoup de choses quand tu les poses dans la cuisine. Donc beaucoup de choses qui sont liées à la cuisine. Genre tu mets des œufs à cuire, tu demandes à OK Google de mettre un minuteur de 3 minutes ou de 5 minutes.
Il vient de s'allumer parce que tu as dit OK Google.
Je crois.
Pour quand?
Jamais.
Pouvez-vous répéter l'heure?
Non, arrête là.
Je n'ai toujours pas compris l'heure. Dites par exemple 10.
Ah non, c'est triché. Ah non, c'est triché.
Au bout d'un moment, faut savoir les arrêter. Savoir les calmer. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'usages sur la cuisine. Ils essaient aussi de porter aussi pas mal les usages sur le côté salon et commencer à piloter sa télé. Le OK Google, enfin le Google Assistant, il permet de voir par exemple de diffuser Netflix ou YouTube sur ta TV qui est connectée via un Chromecast ou qui est déjà Chromecast compatible.
C'est l'espèce d'unification qu'a sorti Google, le Google Home en fait. C'est vraiment une idée de domotique complète, quoi.
Exactement. En fait, c'est aussi le côté où c'est un peu la licorne ou le côté tout le monde est à la recherche d'unifier le monde de la domotique. Et il y a plusieurs moyens qui sont faits pour ça. Il y a des moyens de regrouper toutes les API des clouds. Il y a des moyens de mettre un objet au centre de la maison et pour pouvoir piloter un peu tout. Par exemple, ils sont tous compatibles avec les lumières Philips Hue, avec les différents thermostats. Donc, ils sont tous en train d'essayer.
C'est le gros avantage aussi qu'il y a un standard européen là-dessus sur les lumières pilotables.
Alors, le truc, c'est que non, ils réinventent leur standard, quoi. Il n'y a vraiment pas de.
Oh, punaise.
Il n'y a pas.
Le standard n'est pas appliqué, alors.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux. On va dire, par exemple, t'es fabricant de lumière connectée. Mm-hmm. Et tu veux t'interfacer avec un des deux. Je ne vais pas leur dire leur nom, comme ça, ils ne vont pas réagir. En fait, tu vas devoir exposer des API qui mm-hmm. répondent à leur pattern. C'est-à-dire. Tu dois pouvoir répondre à la commande set luminosity, turn on, turn off, mais ils n'ont pas exactement chacun la même méthode. Donc, c'est du travail à faire à chaque fois, quoi.
Super. On en commande. On le reçoit.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'on l'installe, on le déballe.
Oui.
Donc, la prise en main, comment le paramètre-t-on ? On donne le mot de passe du Wi-Fi à voix haute ?
Surtout pas, malheureux, surtout pas.
Comment fait-on ?
Non, à chaque fois, les deux, tous ces produits-là, en fait, ils viennent avec des applications ou des interfaces web sur lesquelles ils te permettent de les paramétrer. Techniquement, ce qui se passe, oui, pour les deux, en fait, quand ils sont en mode installation, ils créent leur propre réseau Wi-Fi sur lequel tu te connectes, juste pour que tu files l'identifiant et le mot de passe Wi-Fi, donc via ton application. Après, ils l'enregistrent, ils se connectent et c'est parti, tu peux commencer à les piloter. En sachant le truc un peu subtil pour, par exemple, Google Home, si tu le fais depuis ton application Google, tu n'as même plus besoin de taper ton mot de passe Wi-Fi parce que Google le connaît déjà dans ton téléphone, donc c'est bon, il connaît tout de toi, il n'a pas besoin de tout te demander, quoi.
Ouais.
Eh ben oui.
C'est un peu inquiétant aussi.
C'est le monde Google. Mais Amazon essaie de faire la même chose. Quand tu enregistres un Wi-Fi et un mot de passe, ils te demandent hey, ça te dérange, ça t'arrangerait pas que j'enregistre le mot de passe de ce Wi-Fi ? Voilà. C'est toujours
ça veut dire qu'on peut pas le changer comme ça non plus.
C'est toujours. Bon, après, c'est assez simple de les changer. Tu as toujours un mode. Grosso modo, tu restes appuyé une dizaine de secondes sur un bouton et ils se remettent en mode apprentissage. Et là, tu peux changer le Wi-Fi. Mmh. Mais après, c'est la mode des gros groupes où ils veulent avoir le plus d'informations possible. Le Wi-Fi est aussi une information comme une autre, quoi.
Le geek est malheureusement un individu qui essaie d'être sociable. Des fois, il n'est pas seul. Alors, est-ce que ça peut gérer deux individus avec des attentes différentes ?
Alors, oui. Alors, chacun a des approches légèrement différentes. Alexa va plutôt avoir une approche... va plutôt avoir une.
C'est Alexa qui parle en anglais. Hein. Elle fait son intelligente, son intéressante. <pardon. rire>
Va plutôt avoir une approche de connaître tous les profils. Par exemple, tu vas enregistrer ta femme, tes enfants, comme quoi ils ont le droit d'accéder aux produits, mais va pas y avoir vraiment de distinction quand tu vas lui parler. Mmh. Tu vas lui demander change de profil et mets-toi sur le profil d'Anna ou reviens sur le profil de Laurent, mais elle va pas le faire de lui-même. Google Home, lui, il essaye vraiment de reconnaître la voix de chacun et par rapport à ça, de fournir les résultats personnalisés de chacun. Donc si moi, je demande quels sont mes événements de la journée, je ne vais pas avoir la même chose que si ma femme les demande. Mais par contre, il ne faut pas se dire que c'est juste une personnalisation, ce n'est pas du tout une mesure de protection. C'est ce qu'ils disent bien, si quelqu'un a une voix très similaire, il va dire les informations personnelles. Donc il ne faut pas prendre ça comme une mesure de sécurité en reconnaissance de voix, quoi.
D'accord, donc il y a vraiment des limites là-dessus. On va faire une petite coupure musicale comme ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. À vrai dire, vraiment, le sujet nous trottait la tête depuis un bail. Puis c'est quand on t'a vu en parler lors d'un apéro web Toulouse, où franchement, on s'est dit, bon, ça va. Parce que t'as vraiment fait un one-man show avec ces trois bestioles qui étaient vraiment, vraiment très, très drôles. Et ça valait le coup. Et nous recevons donc... ça y est, je me plante. Nous recevons donc Laurent Clouet, développement team manager chez Somfy Protect, et ainsi que ces deux, je vais dire...
Compadres.
Finalement, donc on parlait d'étendre ces assistants vocaux.
Oui.
Justement, ben du coup, comment on arrive à rajouter des fonctions et à s'insérer dessus ?
Alors en fait, les deux, Amazon ou Google, ont des programmes pour pouvoir développer facilement des nouvelles fonctionnalités qui s'appellent des skills chez Amazon ou des services chez Google et qui permettent d'étendre ces fonctionnalités. Donc c'est très facile et ils font vraiment la promotion. Amazon au début faisait à fond la promotion pour qu'il y ait plein de développeurs qui développent ces skills. Ils n'arrêtaient pas de faire des messages genre vous pouvez en développer un en moins de 15 minutes. Si vous en doublez des nouveaux, vous allez gagner un t-shirt. Que des promotions
principe
comme ça.
Principe de base sur une nouvelle techno poussée par un géant en général. Hein.
Ouais, et pour attirer les développeurs, le t-shirt c'est la meilleure arme pour attirer les développeurs.
Ouais, enfin comme ça. Enfin quand ils tiennent longtemps, tu vois. Hein. Celui-là, il a 10 ans, monsieur.
Et donc, en fait, ce qui se passe après, c'est tu rentres. Au début, tu rentres souvent dans des interfaces assez point and click sur les deux, où tu vas définir ton nouveau service et tu vas dire d'abord sous quel nom il réagit. Genre, je sais pas, tu veux faire un skill pour CPU, tu vas dire si on commence à dire par exemple Alexa, ask CPU. To do something. Alors là, ça va être mon service. Elle connaît pas CPU.
Elle connaît pas encore. Oui.
Là, elle va commencer à interroger ton service. Donc, et après, toute la partie ask, par exemple, to play the last podcast par exemple. Là, ça va être lié. Là, tu vas définir des actions que tu peux faire et les mots qui vont pouvoir se déclencher cette action. Donc par exemple, tu as une action qui va s'appeler, on va dire, play podcast, et toi tu vas dire que si tu dis play last podcast, play best podcast, play podcast, en fait, après tu vas définir plein de phrases, de patterns qui vont dire dans ce cas-là, j'exécute cette action. Et là, derrière, c'est à toi un peu de décider ce que tu fais. Donc tu as des SDK fournis par les deux qui te permettent de recevoir des requêtes donc de la part d'Amazon. Donc là, il va dire quelqu'un a demandé de jouer un podcast, donc a demandé l'action play podcast, qu'est-ce que je dois faire? Et donc toi, derrière, soit tu réponds directement, genre désolé, le podcast n'est pas encore disponible, tu peux directement, directement construire des réponses, ou appeler des services externes, genre ok, ce podcast existe, attends, je vais te retrouver dans une base de données, par exemple, le dernier qui existe, et te le jouer et te donner l'information.
Ça veut dire en tout cas que ça passe par un point central, donc on ne dialogue pas directement avec ces engins, mais en fait on passe donc par des serveurs centraux chez les GAFAM, quoi.
Exactement, en fait c'est vraiment la solution cloud à cloud, c'est-à-dire tu vas, donc le point d'entrée est ton assistant vocal, donc le Alexa ou le Google Home, qui va d'abord appeler leur cloud respectif, donc le cloud Amazon par exemple. Le cloud Amazon va appeler, on va dire, ton propre cloud, tes serveurs, qui va lui donner la réponse, et après ça va refaire toute la boucle, repasser par le cloud Amazon et revenir chez lui. Ça, c'est un truc important à savoir niveau vie privée, traitement des informations. À chaque fois, évidemment, ça passe par les clouds de Google, de Amazon, plus tard de Apple ou de Microsoft.
Ça veut dire qu'on fait rentrer non seulement un engin qui écoute, mais qui fait sortir j'avais coupé le micro, oui, parce qu'il y avait un peu de bruit ambiant. Donc ça veut dire en tout cas qu'on est écouté derrière.
Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est...
Attends. La parole est à la défense. Ok Google, est-ce que la NSA nous écoute?
Ça, ce n'est pas dans mes cordes, mais j'apprends encore.
Je pense qu'elle demande l'avis de son avocat. Elle n'est pas encore mature là-dessus.
D'accord. Donc là-dessus, effectivement, donc ça veut dire que quand on fait rentrer un objet, on perd un petit peu justement de sa confidentialité.
Tout à fait. En fait, c'est quelque chose à savoir. Et aussi par rapport à l'endroit où on le place dans la maison et comment ça marche. À savoir qu'ils ont tous les deux des modes extinction du micro. Ici et celui-là. Faut que je le retrouve.
Ah oui, oui. C'est
le micro est mis en veille.
Voilà, les deux... ils ont un micro qui sont arrêtés. Donc normalement, ils écoutent.
Et effectivement, c'est rouge tous les deux. Donc on sait qu'ils sont justement...
En mode vie privée, on va dire.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est...
Y a rien
le
de mieux...
micro est de nouveau opérationnel.
Ouais.
Il n'y a rien de mieux que les débrancher électriquement, de toute façon.
Oui, après, c'est ça. Si on veut vraiment être sûr, c'est les débrancher. En fait, ils écoutent constamment, on va dire, en local. Ils écoutent constamment pour savoir si on est en train de dire le mot Alexa ou OK Google. Après, ils envoient les
infos. Il y en a une qui n'a pas réagi.
Ouais, non, mais Alexa, elle fait vraiment la
Pardon,
gueule ce soir.
Je ne comprends pas.
Après, ils envoient ce que tu as dit dans l'appareil uniquement. Enfin, d'après ce qu'ils disent, et bon, c'est la position qu'ils tiennent, et ça me paraît plutôt logique, qu'à partir du moment où tu as donné une commande. Donc, ce que tu dis après le OK Google, là, c'est envoyé dans les serveurs Google pour que ça soit interprété et qu'ils comprennent quelle commande il doit exécuter.
Ça veut dire...
Désolé, je ne comprends pas.
Ça veut dire que, de toute façon...
T'as trouvé un nouveau jingle, en fait, hein, je crois.
mais les deux... Si on inclut Siri, Cortana et les solutions open source, hein, puisqu'il en existe, ils sont purement open source,
oui.
Ils ont chacun en fait leur propre API, mais rien n'est unifié. Donc on est obligé de programmer pour chacune de ces interfaces d'une manière différente.
C'est plutôt vrai, ouais. C'est chacune.
Même sur l'objet de la requête, de comment la traiter et tout ça?
Oui, en fait chacun a vraiment son format de requête et de réponse. Alors il y a des boîtes qui commencent à émerger un petit peu, mais c'est encore assez récent, parce que tout ce domaine est assez récent, pour essayer d'unifier ça. Il y a un service web qui s'appelle API.ai, qui permet justement de construire toute une interface vocale, donc de construire toute la partie, les requêtes, je suis capable de comprendre ça, en réponse, je suis capable de dire ça, et aussi même plus loin en disant si sur cette requête j'appelle ce service externe, et après qui a la possibilité de se connecter avec un Google Home, un Alexa, du Cortana, et aussi cette fois-ci c'est Alexa qui a répondu, mais aussi qui a la possibilité de se connecter avec des bots, donc pas des interfaces vocales mais des bots de style Slack ou Facebook Messenger, parce que c'est un peu le même principe, au lieu d'avoir l'interprétation speech to text, tu as directement du texte et tu l'interprètes, et après tu décides quelle action tu dois faire, quoi.
Ce qui m'avait vraiment impressionné du coup, c'est que sur Alexa
Something went wrong.
Merci. C'est, en fait, on écrit quasiment des regex. Alors, de l'interprétation vocale.
Alors en fait, ouais, c'est on lui donne des patterns qu'elle doit reconnaître, et dans ces patterns, on peut même lui dire, je sais pas, par exemple, on va dire play the podcast of this date, of last Monday or of Wednesday from last month. Et ça, on va pouvoir lui dire, et là, à cet endroit-là, play podcast of, et là, tu vas pouvoir lui dire, tu t'attends à recevoir une date. Et la date, elle est capable d'interpréter de plein de manières différentes. Ça peut être une date vraiment relative par rapport à maintenant, le lundi dernier, ou exactement le 8 septembre 2017. Et ça, elle est capable d'interpréter. Donc c'est vraiment, oui, des choses, tu peux dire, j'ai cette phrase, et à l'intérieur, il va y avoir des mots que tu vas devoir isoler. Et les mots, en fait, tu vas devoir définir quel type de mots ça va être. Est-ce que là, tu vas devoir essayer de capter un nombre ou une date, où il y a aussi des patterns du style des villes, des pays, des choses comme ça.
Ça veut dire, en tout cas, puisque donc on a Alexa qui parle in English et Google là, qui sont paramétrés en français, est-ce que ça veut dire que pour chaque langage, on est à nouveau obligé de refaire ce travail?
Alors, faut le faire de manière assez intelligente. En fait, nous...
Alors, fais gaffe, parce que quand on met de l'intelligence dans un appareil, c'est que l'utilisateur devient vraiment con. Hein.
chez Somfy Protect, on a fait le skill pour Alexa, et on l'a fait d'abord...
Something went wrong. Please try in a little while.
On va le savoir. Hein.
On l'a fait d'abord.
En fait, si elle fait la gueule, c'est parce que le Wi-Fi, là, elle n'arrive pas à le récupérer.
Oui,
on sait pas trop ce qui se passe.
C'est assez bizarre. J'ai l'impression d'avoir changé de compte plusieurs fois. Après, il faut savoir que c'est un produit américain et qui est normalement réservé qu'au marché américain. Et on est un peu obligé de passer entre les mailles du filet pour réussir des fois à le configurer. Et je me demande si au fur et à mesure, ils ne rajoutent pas des restrictions et qu'ils commencent à capter qu'on est en France et qu'ils le...
Oui, mais ils sont censés le vendre bientôt.
Ils sont censés le vendre bientôt, mais pas encore, c'est pas encore fait, quoi. Ils se sont fait, là-dessus, justement, ils se sont fait bien doubler par Google Home, quoi. Par rapport aux langues, ce que tu disais et le développement, en fait, ce qu'on a fait et ce qu'il faut faire attention quand on développe ce genre d'interface, c'est vraiment séparer, on va dire, la logique, le code métier, de toute la partie traduction. Et en fait, on savait déjà qu'Alexa allait être disponible en allemand. Et donc, quand on a construit notre application en anglais, on a vraiment séparé en fichiers distincts un fichier qui contenait vraiment que toutes les traductions et un autre qui contenait la logique métier. Donc quand on a dû quand l'allemand s'est ouvert et qu'on a pu déployer notre skill en allemand, on a juste demandé à une agence de trad de traduire toutes les phrases en anglais et on a pu le resoumettre immédiatement. Mais d'accord. Si on fait pas ça,
donc ça veut dire qu'il faut toute une logique d'abstraction derrière.
Ouais.
Et est-ce qu'il existe, du coup, pour essayer d'unifier tout ça, est-ce qu'il existe des frameworks vraiment logiciels en dehors des boîtes justement qui proposent des API pour unifier tout ça, un framework de développement pour essayer de
après de simplifier le bordel. Il le propose tous les deux. Tous les deux, il le propose des SDK. Alors Alexa, il le propose en Node.js, Python et Java, je crois. Nous, on a choisi de faire en Node.js. Et après, ce framework permet de préprocesser rapidement la requête, de gérer pour toi le système un peu de session, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une requête, tu reçois un appel, mais il te renvoie l'ID de session.
Ce qui permet de suivre le contexte.
Exactement.
De dire, non, je veux l'épisode précédent. Il sait de quoi tu peux. Enfin, exactement. Le service peut savoir de quoi tu parles.
Le truc le plus bête, c'est des fois, on a beaucoup d'états dans lesquels on peut répondre oui ou non. Mais en fonction dans quel état on est, des fois on peut, des fois on peut pas, et ça va pas déclencher la même action. Nous, on a un seul skill, enfin, une seule fonction, gérer le oui ou non, et en fonction de l'état dans lequel il se trouve, ça va débloquer un autre état ou pas, quoi.
On va faire une coupure musicale. Pendant qu'ils ont les micros coupés, on va les remettre parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est CPU. Et nous recevons Laurent Clouet, développement team manager chez Somfy Protect, accompagné donc de Siri et Cortana, pardon je les confonds, d'Alexa et de Google.
Ils vont se vexer. Hein.
Ils vont se vexer, tu parles. Oui, parce que c'est justement ça qui est surprenant, c'est que j'avais dit qu'ils mettaient de l'humour derrière. Pour justement pour passer je vais dire plus facilement la pilule de cette intrusion hein, au final, et c'est vrai que c'est vraiment vraiment étonnant. T'as fait vraiment le tour de tous les Easter eggs?
Non, c'est juste impossible. Il y a des sites qui s'amusent à recenser tous les Easter eggs. Et ils en trouvent au fur et à mesure, mais je pense que c'est dans les 500, les 1000 qu'il y a dans Alexa. Et il y en a plein, plein, plein. Alors, beaucoup d'Easter eggs, un peu pour les geeks ou pour les fans de séries. Il y a énormément d'Easter eggs Star Wars, Game of Thrones ou Star Trek, des choses comme ça, quoi.
Ok Google, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui spoil Game of Thrones?
Désolé, je ne comprends pas.
Bon alors c'était un peu trop complexe.
Attends,
on va essayer une autre, ouais.
Ok Google, winter is coming.
Si tu peux le faire dans le micro.
La météo m'indique une forte dépression venant du nord. Préparez-vous, l'hiver est là.
L'hiver est là. Il a dit que l'hiver était là.
Elle est pas mal. L'autre inconvénient du coup, c'est que si t'as pas de connectivité, bah ça marche quasiment pas quoi.
Alors ça ouais, c'est l'inconvénient monde des objets connectés. Hein.
Voilà, on le voit. Désolé pour les auditeurs. On l'entend avec ce que dit Alexa depuis tout à l'heure, mais effectivement, Alexa. Alexa. What is your mood? Non, elle veut vraiment pas, d'accord?
Alexa, talk to me, please.
Something went wrong. Please try again in a few minutes.
Donc de ce côté-là, donc ça veut dire effectivement que c'est pas un objet si intelligent que ça s'il y a pas la logique derrière du cloud.
Ah non, c'est ça. Faut vraiment se dire que une grosse partie de l'intelligence est déportée dans le cloud. L'intelligence locale, ça va être de capter les sons ambiants et de pouvoir en dégager le mot déclencheur. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'intelligence en local. Peut-être il y a des petites intelligences, peut-être le timer peut rester en local, des choses assez basiques. Mais toute la partie décryptage de phrases et tout, ça c'est envoyé directement dans le cloud pour interprétation, quoi.
Et de toute façon, ce sont des portes d'entrée. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à son porte-monnaie. Alors donc, actuellement aux États-Unis, Amazon réalise 71% du commerce par commande vocale. Google fait 24%. Donc c'est vraiment orienté de ce côté-là, côté achat.
Bah, c'est comme ça qu'ils font du bénéfice après aussi derrière. C'est Clairement, la politique d'Amazon, c'est comment faire en sorte de rendre les achats encore plus simples pour tout le monde. Ils l'ont vu, avec, ils le tentent avec l'assistant vocal. Ils l'ont tenté aussi avec les... j'ai oublié leur nom, les boutons où tu presses...
Oui, les Amazon Dash.
Dash, ouais, voilà. Où tu appuies juste dessus et c'est bon, ta commande est directement passée.
Et dès la première commande, ça t'est remboursé.
C'est à la fois super pratique et un peu effrayant en même temps.
C'est effrayant d'ailleurs parce que, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis... la reconnaissance vocale marche tellement bien qu'il y a eu un sacré bug avec un reportage télé.
Alors il y a eu des bugs. En fait, il y a eu les bugs quand ils ont fait des pubs déjà, quand ils ont lancé des pubs pour le OK Google ou l'Alexa. Quand ils ont fait la pub, ça a déclenché le OK Google partout. Il y avait alors je sais plus c'est qui. Je crois que c'était Pizza Hut qui ont vraiment fait les malins. C'est
ils ont mis en veille.
Ils ont fait une pub où ils ont dit je suis désolé, cette pub ne peut durer que 5 secondes et je peux pas vous présenter Pizza Hut. Par contre, je peux demander à OK Google de vous présenter. Et ils ont fait OK Google présente moi Pizza Hut et là tous les OK Google ils se déclenchaient.
C'est pour ça que tu l'as coupé du coup. Ouais, c'est qu'il y avait un risque de pub. Ah ouais, donc c'est vraiment ils ont sorti la pub depuis son contexte.
Exactement.
C'est un sacré hack. Ça veut dire qu'ils ont payé moins cher leur pub et en même temps ils atteignaient des foyers qui étaient CSP+.
Exactement. Alors par contre, Google. Alors je sais plus si c'était Google ou Alexa. Enfin c'était un des deux. Ils ont pas du tout apprécié et le lendemain c'était plus possible. En fait grosso modo ils ont filtré. Si t'entends ce son parce que c'était toujours le même son, tu fais rien quoi.
Bah oui, c'est un peu logique ouais.
Mais voilà, tu vois. Les publicitaires avaient déjà pensé genre comment étendre la télé et voilà je peux atteindre cet objet qui est dans la maison quoi.
C'est au-delà du truc de reconnaissance.
Le micro est de nouveau
opérationnel. Je voulais pas te couper là.
C'est vrai qu'il y avait le QR code à un moment ou encore le mot-clé à chercher dans le navigateur puis ensuite donc l'empreinte musicale à faire écouter à Spotify
ouais.
À Shazam pardon et là ils sont allés vraiment au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus à préparer à ça, c'est déjà prêt, c'est proactif.
Mmh. Ouais, c'est, ils sont prêts à t'écouter, à faire n'importe quelle recherche. Il y a un truc assez marrant que j'avais lu par rapport au fait de faire des recherches et au fait que les gens vont l'utiliser le plus en plus, c'est qu'ils disaient en fait tu parles, je crois que c'était 5 ou 10 fois plus vite que tu peux écrire. Et ce qui est super pratique parce que tu fais ta recherche encore plus rapide. Tout le monde veut faire des recherches tout le temps et ta recherche là tu l'as immédiatement quoi.
5 à 10 fois plus que tu peux écrire, moi c'est beaucoup plus longtemps pour les intros. Par contre ce qui est intéressant c'est que le micro est sensible. Et même vraiment trop. Donc, la semaine précédente de l'enregistrement de cette émission, il y a une équipe chinoise qui a décidé de pitcher, c'est-à-dire ils ont déformé une voix pour le faire paraître beaucoup plus aigu. Ils l'ont mis jusque dans les ultrasons.
Et exactement.
Donc, l'oreille ne l'entend plus, mais les assistants vocaux le comprenaient parfaitement. Et là où c'est problématique, c'est que tous les assistants vocaux sont contaminés par ça.
Ah oui, grosso modo.
C'est du trop bon matos partout, ça marche trop bien. Et tous d'Apple, tous.
Oui, que ce soit Apple, Google, Amazon, je ne sais pas si ça avait été testé jusqu'à Microsoft, mais grosso modo, tous, ils entendent au-delà de l'oreille humaine. Et donc, tu peux leur envoyer un son, en effet, dans des ultra aigus. Et
passer commandes.
Et ça déclenche des commandes. Alors. C'est vrai, c'est une faille à voir comment s'exploiter et tout, mais ça peut faire un peu peur. Nous, je sais que quand on a développé notre système, notre skill sur Somfy Protect, qui permet aussi de désarmer ton système, le premier truc auquel
système d'alarme, on précise, c'est les alarmes de maison. Hein.
Système d'alarme, pardon. Le premier truc auquel on a pensé, c'est faut surtout pas que quelqu'un puisse gueuler à travers la porte, Alexa, désarme mon alarme, et le cambrioleur peut rentrer. Donc là-dessus, on a mis la même logique que tu as sur ton interface web ou ton application mobile, une logique de mot de passe qui est demandée.
Donc il y a une double authentification, c'est-à-dire ce que toi tu produis avec ta voix et ce que tu as ton smartphone à côté.
Alors non, c'est pas une double authentification, c'est lorsque tu fais l'appel, elle va pas faire l'action immédiatement, elle va te demander une confirmation avec un code pour débloquer l'action quoi.
Donc tu dis ton code à voix haute.
Mais tu peux
1 2 3 4 5. c'est pas franchement sécure non plus.
Après tu peux le changer, c'est un mot de passe ouais, comme n'importe lequel.
T'as le voisin un peu con là, le funeste qui enregistre ta voix et il peut rentrer chez Talon quoi.
À toi de faire gaffe avec tes mots de passe et comment les divulguer ou pas quoi.
Ouais, enfin à voix haute, je suis désolé hein. tu sais que je fais des cryptos. Crypto party, je peux t'enseigner des trucs.
Ouais.
Mais bon, d'un autre côté, développer ce type d'interface sur un marché qui va rester, est-ce qu'il va être embryonnaire ou vraiment exploser, on ne le sait pas encore. Mais franchement, est-ce que c'est pas beaucoup d'énergie pour un truc qui est ultra propriétaire dans tous les cas, où le fabricant de l'engin peut à tout moment décider de restreindre les fonctionnalités et tout le reste? C'est quand même un sacré risque.
Bah, après, le côté ultra embryonnaire qui va rester qu'un marché de niche, c'est un peu un pari sur le futur et qui commence quand même à se développer.
En clair, tu risques de te retrouver comme sur la Wii U alors que tu aurais pu le développer pour PS4.
C'est
oui, bon.
Pour la Wii U. Non, ce qu'il faut voir en plus, c'est surtout avec le côté développé pour Google. Mmh. Quand on développe pour Google, on développe pour Google Assistant. On ne développe pas pour Google Home. Et ce qu'il faut voir après, c'est que le Google Assistant, il est déporté dans plein d'appareils. Il commence à être déporté dans ton téléphone mobile, dans ton, dans ta smartwatch. Et c'est quelque chose, c'est une tendance qui se voit aussi, genre au CIS, c'est vraiment la possibilité d'intégrer ces assistants vocaux dans beaucoup d'objets connectés, de faire en sorte que l'interface de ces objets connectés soit pas juste une interface tactile ou à l'écrit avec un clavier, mais qu'il puisse aussi être une interface vocale. Donc c'est quelque chose développé pour les assistants vocaux, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Faut que ça se stabilise, faut que ça gagne aussi en maturité, de compréhension. Mmh. On le voit très bien là, de temps en temps, ils ne comprennent pas, c'est pas toujours nickel. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, pas forcément que dans des assistants vocaux à la maison.
Ça risque pas de rester un gadget de snob comme la Google Glass ou l'Apple Watch.
Peut-être que cette forme-là d'enceinte connectée avec un assistant à la maison va rester un gadget qui va pas gagner en maturité. Après, il s'en est quand même vendu des millions aux États-Unis. Mais je pense que le fait de développer pour les assistants vocaux, ça, par contre, ça va prendre. Que ça soit de cette forme-là, une forme de téléphone, même dans ton navigateur web. Au fur et à mesure, dans ton navigateur web, tu pourras déclencher, demander des actions juste en parlant dans ton micro de ton ordinateur. Mmh.
Donc, on en a deux exemplaires qui sont ici. Il y a d'autres modèles donc, qui existent. Il y a même un modèle qui est purement open source et qui, là, au lieu que ça aille dans le cloud, ça se met sur un Raspberry Pi, si je me trompe.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir avec... donc, c'est le projet... Ah, mince, j'ai oublié.
Oui, je l'ai, mais c'est pas sur la bonne, sur les bonnes notes. Ouais.
Si, c'était l'assistant dans Iron Man.
C'était, ah, Jarvis.
Jarvis, voilà. C'était le projet Jarvis qui a été fait. Mais il y en a d'autres. Il y a Minecraft. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est sur Raspberry Pi, mais c'est à moitié, des fois, c'est à moitié open source. C'est la partie détection vocale, écoute en permanence, ça, il n'y a pas de problème, ils le font. Et après, ils analysent les sons avec une librairie à l'intérieur qui va s'appeler Pocket Sphinx, je crois. Et par contre, le fait d'analyser entièrement une commande et de la restituer en texte, ça, il n'y a pas encore... Il y a quelques solutions open source qui existent, mais il n'y en a pas beaucoup. Le leader dans le marché, grosso modo, c'est Google, quoi. C'est, tu lui envoies un son, et il va te le restituer en texte et te dire quel texte il a compris, quoi. Ça reste possible, c'est tout à fait quelque chose de possible, mais il n'y a pas encore de grosses solutions qui sont développées là-dessus.
Ce qui est d'étonnant, c'est que Apple semble perdre la course à la qualité de réponse. Est-ce que ça, c'est dû au fait qu'ils ont décrété qu'ils ne gardaient pas les informations personnelles plus de 3 à 6 mois, je crois,
Ils veulent
ou
pas...
parce qu'ils n'ont pas autant de moyens, finalement, que Google et Amazon là-dedans?
Je ne sais pas. Je pense qu'ils regardaient un petit peu ce qui se passait dans le milieu, voir si ça prenait ou pas. Après, ils ont quand même déjà annoncé leur réponse. C'était à la keynote de juin, où ils ont déclaré que leur nouveau produit, qui s'appelait le HomePod, allait être lancé, et c'est clairement une enceinte connectée avec un assistant vocal intérieur, donc le Siri, qui sera lui disponible en décembre. Donc il vise clairement les ventes de Noël aux US, en Grande-Bretagne et en Australie. Alors là où ils essayent de se différencier par rapport aux deux autres, c'est qu'ils mettent énormément l'accent sur la qualité du son. Et après, c'est ce que je te disais au début, Le son, pour moi, il reste potable pour écouter la radio le matin, écouter des petits morceaux rapidement. Après, pour un vrai système IFI, non, ça ne remplace pas une vraie chaîne IFI.
D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que Siri semble être plus pensé d'ailleurs pour l'Apple TV, vu les contextes dans lesquels tu peux dire dans quel épisode il parle de tel truc, si c'est dans le programme de l'Apple TV.
Ce qu'ils ont en tête, alors c'est
vraiment étonnant les démonstrations que j'ai vues là-dessus d'ailleurs.
Ce qu'ils ont en tête avec l'Apple TV et tout ça, c'est que le Siri à l'intérieur du HomePod aura des fonctionnalités de base, mais qui sera vraiment décuplé si tu as l'Apple TV chez toi. Parce que l'Apple TV est, dans l'esprit d'Apple, en fait, l'Apple TV est vraiment ton centre de domotique avec lequel tout le monde doit communiquer. Et si tu ne l'as pas, tu n'as pas le monde de domotique de chez Apple.
Pour terminer, toi, quel serait ton choix personnel sauf si tu l'as déjà, d'ailleurs.
Mais en fait, pour l'instant, tu peux acheter que le Google Home en France. Donc déjà, si tu veux faire un choix en France, c'est assez simple. On va dire son, si tu veux l'utiliser beaucoup pour écouter du son, l'Amazon Echo a quand même un son beaucoup plus agréable, avec plus d'aigus. Le Google Home a vraiment beaucoup trop saturé, je trouve, sur les basses. Et par contre, pour le développement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Alors, c'est à la fois intéressant et c'est le côté, tu rentres dans le monde Google, donc tu peux interconnecter énormément de services. Et donc, si tu as déjà ton compte Google et tout, tu peux vachement interagir et avoir des choses très intéressantes avec le Google Home. Et je pense qu'ils mettent énormément de moyens. La preuve, ils ont quand même rattrapé, ils sont sortis avec à peu près un an de retard par rapport au Amazon Echo. Et ils les ont rattrapés, ils les ont doublés, ils sont déjà sortis en français, alors qu'Amazon Echo n'est toujours pas sorti en français, quoi. Donc je pense, niveau potentiel et niveau futur, le Google Home a beaucoup de choses à prévoir, quoi.
Laurent Cloué, merci beaucoup. Merci beaucoup à Somfy Protect. Et merci donc à Alexa et à Google de leur présence et de leur perturbation.